podcast Protège ma promesse. Pour ce cinquième épisode, nous nous intéresserons à l'histoire des scouts d'Europe avec Lionel Christian, qui est lui-même scout d'Europe et spécialiste de l'histoire de ce mouvement. Bonjour Lionel Christian.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Pour commencer, est-ce qu'on peut dire que les scouts d'Europe sont nés d'une réaction à la réforme Pioneer Rangers chez les scouts de France ?
Alors la réforme Pioneer Rangers des scouts de France qui s'est mise en route en 1963-64 a certainement joué un rôle dans la mise sur orbite des scouts d'Europe. Mais la fondation de ce mouvement était antérieure d'une part et deuxièmement ne se positionnait pas par rapport à ce qui se passait ou ce qui allait se passer chez les scouts de France évidemment.
Et donc quel est le contexte de cette fondation ?
Alors les scouts d'Europe c'est un rêve. C'est un rêve éveillé de jeunes gens qui, à la fin des années 50, estiment qu'il y a, dans un contexte de construction de l'Union européenne, de la future Union européenne, de l'après-guerre, d'un romantisme un peu germanique, là, se sont dit qu'il y avait moyen de créer un mouvement par-delà les États, les frontières étatiques, et que ce mouvement pouvait inspirer... pouvait vivre indépendamment de ce qui se passait avec les associations nationales, en Allemagne, en France ou ailleurs, et que ce mouvement pouvait réunir par-delà les frontières des jeunes gens, chrétiens, ou alors protestants, catholiques, de différentes confessions, par-delà un idéal commun. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a des signes de piste qui proposent cette thématique-là, notamment le glaive de Cologne. Et donc, il y a eu un noyau... germanique, en Allemagne, donc, qui a décidé de mettre en route un mouvement qui pouvait donc réunir des jeunes gens d'abord de confessions différentes. Ça, c'était sur un plan, ça correspond à l'Allemagne qui connaît donc les églises protestantes et le catholicisme, et donc des jeunes gens de mouvements de pays différents. Donc, c'est né globalement dans les années fin 50 en Allemagne.
Et donc, quels sont les différents mouvements qui vont se joindre ? Je crois qu'on a les scouts Blémort, notamment, et les Europa Scouts. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ?
Alors, à côté de ce noyau germanique, là, qui est vraiment à l'initiative, on est plutôt dans les années 56, 57, 58, vont se lancer donc, dans cette tentative, à partir entre l'Autriche, l'Allemagne, et il va y avoir à un moment une jonction avec un groupe français, parisien, qui a une identité particulière, parce qu'il est autour du scout orthodoxe russe. Alors, c'est assez particulier, mais il y a toute une histoire interne, là, qu'on pourrait développer indépendamment. Donc, il y a une rencontre avec quelques chefs français qui sont favorables à cette idée-là, et qui se rencontrent une fois par an. Donc, ils forment un mouvement international, et qui se rencontrent une fois par an à Cologne, au moment de la Toussaint, là, pour essayer de créer une fédération. Et donc, elle va s'appeler la Fédération du scoutisme européen. Elle avait un autre nom en Allemagne, mais de fait, se crée une fédération internationale. La Fédération du scoutisme européen, la FSE.
Ça, c'est en quelle année ?
Alors là, on est à partir de 57-58, avec une réunion annuelle. Alors, ça se passe plus ou moins bien. À un moment, il y a en Belgique, ça démarre en Belgique, il y a quelques groupes en Belgique. Donc ça, c'est globalement assez structuré. Les effectifs sont dérisoires, on parle de quelques centaines, là, un peu plus en Allemagne quand même, ils sont arrivés à 600, 800. En France, c'est très marginal, en Belgique, il y a quelques groupes, il y a même une tentative en Angleterre. Les scouts, ce que vous avez appelé les scouts Blémort, donc ils correspondent à un scoutisme d'identité bretonne, qui est paradoxalement né à Paris, que je vous expliquerai après pourquoi. Ces scouts Blémort, là, étaient nés, eux, après la guerre, en 46-47, et avait touché déjà d'abord des routiers et des guides aînés, donc la branche aînée, et après avait fini par fonder des unités scouts, donc guides, louveteaux, alors louvettes qui s'appelait Corrigan, et scouts, donc dans les années 57-58. Donc en fait, au même moment, de manière parallèle et sur des mobiles ou des objectifs complètement différents, se structurent des mouvements qui sont un peu aux marges des grands mouvements nationaux. C'est-à-dire on a affaire quelque part à des marginaux, quoi. En tout cas, ils ont une proposition alternative qui ne correspond pas du tout aux grandes associations structurées, nationales, qui ont un QG, qui ont pignon sur rue, subvention de l'État, reconnaissance étatique et tout ça. Et donc on a affaire là à des groupes, on va dire, alternatifs, quoi, qui sont imprégnés de l'idéal scout, qui sont sur des objectifs assez élevés, mais qui ne sont pas du tout dans le même projet. Et effectivement, il y a eu une rencontre assez paradoxale, assez inattendue, entre ces jeunes gens qui avaient donc fondé un mouvement européen, de scoutisme européen, par-delà les frontières, donc en Allemagne, et avec un groupe en France et en Belgique, une tentative en Angleterre, et ce scoutisme d'identité bretonne ou identitaire breton, qui était né à Paris parce que, on l'a oublié, mais Paris était à l'époque une métropole et sa banlieue qui recueillait beaucoup de migrations, d'immigrations bretonnes. La Seine-Saint-Denis, même à un moment avant-guerre, était même vraiment une colonie bretonne. Et donc il y avait beaucoup, beaucoup de familles bretonnes, de jeunes bretons qui arrivaient à Paris pour trouver du travail parce que c'était le contexte rural était en déprise à ce moment-là, dans les années 50, là. Et donc le travail, c'était à la SNCF, à la Poste, ou dans des choses comme ça, dans des institutions comme ça. Et beaucoup de Montparnasse, c'est très connu, mais il n'y a pas que Montparnasse. Le 15e arrondissement, tout ça, quelques banlieues, là, avaient beaucoup de familles bretonnes. Et donc, un jeune couple qui s'était marié en 1941, qui, par les hasards de l'affectation du travail, se retrouve à Paris en 1945, là, et se rendent compte que dans le cercle celtique où ils se sont inscrits à Paris, ben, ils ne sont pas les seuls à être bretons immigrés, enfin déracinés si on veut. Et puis surtout, ils ne sont pas les seuls à être scouts. Et donc, tout d'un coup, l'idée de créer un scoutisme qui aurait une particularité bretonne, une spécificité identitaire, donc avec un travail pédagogique très fort sur les questions de culture, à la sauce scout, c'est-à-dire en la rendant concrète et non pas théorique, se met en route, donc à travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, un clan pour les routiers, un feu pour les guidés-nés, qui vont donc faire des camps en Bretagne de manière, à partir de 1946, de manière très symbolique et très forte, de jeunes gens déracinés qui, chaque année, retournent au pays. Et j'en avais rencontré un qui était arrivé à Paris en 1944, et ses premiers mots de l'entretien que j'avais avec lui, il s'appelait Jean Le Minor, c'est de la famille des Brodeurs, il m'avait dit, quand je suis arrivé à Paris, j'étais perdu. Et lui, ayant été scout à Pont-l'Abbé avant, juste après la guerre, là, et donc arrivant, retrouvant des scouts et qui avait un projet breton, ben, tout d'un coup, il s'est trouvé une famille, une nouvelle famille. Et donc là, tout d'un coup, il a pu vivre des années extraordinaires au sein de ces scouts Blaymore. Alors Blaymore, c'est le nom de plume, Blaismore, c'est le loup de mer d'un auteur breton mort en 17 pendant la guerre de 14, Jan-Bert Calor, donc Jean-Pierre Calor. Et qui avait comme nom de plume, comme poète breton, un peu le Peggy breton si on veut, donc, qui avait comme nom de plume le loup de mer, parce qu'il était né sur l'île de Groix, donc au milieu de la mer.
Et le couple dont vous avez parlé tout à l'heure, je crois, a eu un rôle évidemment important. Ce sont les Géraud-Caraud.
Alors les Géraud-Caraud, donc c'est Périgue et Lysigue. Périgue, c'est Petit Pierre. Lysigue, elle s'appelle Lucienne en fait, elle est de Montauban. Mais c'est Périgue qui est breton dans le couple. Et Géraud, c'est le nom de famille de Péric. Et Keraoud, ça va être la bretonisation, si on veut, de ce nom. Ça veut dire la maison de la plage. Aoud, c'est la plage en breton. Et donc ce couple-là, qui avait été formé par le scoutisme, qui en avait vraiment reçu beaucoup de fruits, alors à Montauban, du fait de d'un déménagement du père de Péric, qui avait dû se replier de Lorient à Montauban pour des raisons professionnelles. Ce couple-là, donc, qui puisait à des racines bretonnes par Périgue, mais à des racines montalbanaises, et notamment dans le scoutisme de Montauban, qui était extraordinaire dans les années 30, se retrouve donc finalement à rencontrer des jeunes gens pour qui le scoutisme, ça parle, et pour qui l'identité bretonne, c'est une nécessité vitale. Et donc, ce couple va recevoir chez lui et faire des réunions de formation chez lui, rue Falguière, dans le 14e arrondissement. C'est un couple qui va avoir 5 filles. Et donc vont s'occuper de jeunes gens un peu paumés ou un peu déracinés et qui ont besoin de fraternité, de chaleur, de solidarité. Et donc leur logement, leur habitation, qui est toute petite d'ailleurs, un petit appartement, ils vont faire des réunions hebdomadaires, après il va y avoir des activités, ils vont faire de la culture bretonne. Alors un peu en parallèle avec ce qui s'appelait la mission bretonne qui existe toujours, rue des Lambres à Paris, dans le 14e, la mission bretonne où qui voyait arriver des jeunes gens cherchant du travail à Paris, souvent pour des métiers très simples comme domestiques, choses comme ça. Et cette mission bretonne, qui était dirigée par un prêtre, cherchait globalement à insérer ces jeunes gens arrivant de Bretagne sans trop de qualifications, ou un peu perdu, et donc cherchait à les insérer pour qu'ils puissent réussir, en fait. Et alors que, quelque part, le projet du couple Géraud-Caraude, ça va être un peu l'inverse. Au lieu de chercher, quelque part, l'assimilation, c'est au contraire le maintien de la culture bretonne en plein cœur de Paris, dans l'idée de ne pas, justement, se faire avaler par la métropole, quoi, par cette ville tentaculaire, qui a impressionné beaucoup ces jeunes gens quand ils arrivaient. Et donc ce couple a travaillé sur ce projet de scoutisme identitaire pendant une quinzaine d'années, avant de saisir l'occasion, donc au début des années 60, de chercher des connexions, des liens par-delà les frontières avec d'autres mouvements scouts à l'étranger qui seraient sur ce même projet. Et donc ils vont chercher à rencontrer des mouvements Pays Basques, ils vont chercher. Alors ils sont même allés rencontrer assez tôt d'ailleurs, dans les années 47-48, donc vraiment au démarrage de Blémor, et puis après en 56 de nouveau, là, des scouts israéliens. Donc des scouts, un scoutisme identitaire juif qui, justement, après la guerre et la Shoah, cherchait à renforcer l'identité juive grâce au scoutisme comme méthode, en fait, comme méthode de. D'appropriation de la racine juive. Et donc, ils avaient rencontré de grands bonhommes, là, des grands chefs scouts juifs qui avaient travaillé à comment le scoutisme peut-il être un instrument pour renforcer la culture interne identitaire, la culture familiale de jeunes gens déracinés. Et donc, il y avait eu des rencontres à Orsay, donc en région parisienne, en banlieue parisienne, qui avaient été très frappantes pour ces scouts blémors.
Il y aura un autre personnage qui va avoir un grand rôle aussi dans cette fondation, c'est Jean-Claude Alain.
Alors Jean-Claude Alain, c'était le Français qui avait fait la jonction avec les groupes allemands en 56. Alors Jean-Claude Alain était un auteur de littérature, de jeunesse, qui n'était pas dans la grande maison du Signe de Peace, mais dans une maison parallèle, hein, et qui avait des tas de qualités, mais qui avait aussi des défauts, et notamment... sur le plan des mœurs, donc il a des casseroles, ce Jean-Claude Alain, donc c'est pas son vrai nom d'ailleurs, c'est son nom de plume, et donc quelque part, on avait affaire à quelqu'un qui avait un bagout extraordinaire, qui avait des idées un peu hors normes, qui rentrait pas dans le moule, dans le cadre de ce qui existait, et qui faisait qu'il était capable d'attirer à lui des jeunes gens ou même des personnalités intéressantes. Alors, bon, malheureusement, Jean-Claude Alain est clairement un pédophile, donc ce qui pose un problème quand même dans l'histoire des scouts d'Europe quand ils vont rencontrer Jean-Claude Alain. Parce que, évidemment, le scandale a fini par éclater fin 62. Et donc, à un moment, les responsables scouts d'Europe en France, qui commençaient à être structurés, qui commençaient à être quand même des gens qui avaient de la pointure, hein, qui n'étaient pas des idiots, et qui avaient de la carrure pédagogique, sont bien rencontrés que leur fondateur, en tout cas leur animateur principal en France, n'était pas fiable sur le plan des mœurs. Donc ça a posé un trouble énorme au sein de l'association française des scouts d'Europe. Donc ça ne touchait pas l'Allemagne, non, qui n'était pas concernée par ce problème. Et donc au sein de l'association française des scouts d'Europe, donc de la Fédération des scouts d'Europe, de la FSE, tout d'un coup il a fallu faire un choix entre celui qui avait porté l'idée en France, et qui portait donc clairement le nom de fondateur, et le fait de reprendre en main l'association, d'une certaine manière contre-inforcée. Et qui a repris en main cette association? Ben, c'est ce jeune couple dont j'ai parlé, Perrine et Lizig Géraud-Caraude, qui, venant à peine d'arriver au sein des scouts d'Europe, pour pouvoir, espérant dilater leur proposition identitaire dans une association qui comprendrait mieux leur combat que les scouts de France, où ils étaient préalablement inscrits, donc je ne l'ai pas dit, mais les scouts blémors, ils étaient au sein des scouts de France et des guides de France, donc ils étaient leurs unités, le clan, le feu, la troupe, la compagnie, clairière et meute étaient au sein des scouts de France et au sein des guides de France, deux associations séparées, et donc rencontrant les scouts d'Europe en 62, ils se sont dit, là, il y a manière de dilater notre proposition identitaire, dans une association, pouvant rencontrer d'autres jeunes gens dans d'autres nations qui auraient les mêmes objectifs que nous, les mêmes projets que nous, c'est-à-dire rencontrer, par exemple, en Angleterre, des scouts gallois, ils ont tenté le coup en 64, des scouts écossais, ou en Espagne, des scouts catalans, ainsi de suite. Donc il y avait tout d'un coup un grand projet qui se mettait en place, il y avait des grands espoirs, donc on est en 62, qui faisaient que c'était possible de transcender les associations nationales pour faire un mouvement supranational, et qui permettrait donc la rencontre d'identités, donc de minorités ethniques, on disait à l'époque, de minorités ethniques. Sauf qu'il a fallu reprendre la maison en main, puisque le fondateur avait des faiblesses sur le plan des mœurs. Et donc là, on est début 63.
Et avant de continuer cette histoire, justement, je voulais m'arrêter un peu sur la figure de Péric Géraud-Kéraud, parce que vous vous êtes spécialement intéressé à lui dans votre thèse qui est malheureusement inachevée. Et j'ai lu que Péric Géraud-Kéraud avait des liens avec Jean Housset. Est-ce que ces liens ont eu une influence sur la fondation des Scouts d'Europe ?
Alors, Péric Géraud-Kéraud, donc breton par sa mère, montalbanais par son père, il a vécu l'essentiel de son enfance à Montauban. Et à une époque où Montauban était une chrétienté extraordinaire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, je crois que dans le diocèse de Montauban aujourd'hui, il n'y a même plus 30 prêtres. Je crois que l'évêque n'a même plus de secrétaire, alors qu'à l'époque, c'était une chrétienté en marche extraordinaire de cohérence, de solidité, surtout dans un diocèse qui était particulièrement difficile, dans la mesure où c'était une terre radicale socialiste sur le plan politique, et qu'il y avait une très très forte minorité protestante. Donc en fait, les catholiques, ils n'étaient pas les seuls, et surtout, et donc ils devaient être. Ils étaient combatifs, quoi. Et Montauban, l'histoire de Montauban dans les années 30, c'est fascinant. Parce qu'on a vraiment affaire à une chrétienté qui se défend et qui s'assume et qui est dans un environnement quelque part hostile. Alors même si il peut y avoir des relations au sein de la bourgeoisie, qu'on soit protestant ou catholique, c'est pas le problème. Mais quelque part, être catholique là-bas ou être protestant là-bas ou être de droite ou de gauche, c'était vraiment des identités fortes. Donc, en tout cas, un milieu catholique de combat, très combatif, hein, 36, Front populaire, ça. Et dans le scoutisme, c'est exactement la même chose. Et donc, Péric Géraud, là, donc, a vécu une période qui l'a fortement impacté, et qui explique beaucoup du bonhomme après-guerre, et donc sa capacité à défendre ses opinions, ses options, et surtout quand elles vont être complètement à l'encontre du vent dominant ou du sens de l'histoire de l'époque, des années 60. Et donc, cette personnalité, elle est entière, Péric Géraud. Kéraud, plus tard, est un homme d'un bloc qui, une fois qui se moque du sens du vent et qui décide, quand il a un projet en tête, de le mener à terme, quelles que soient les oppositions, quelles que soient le. C'est quelque part un catholique anticlérical, ce qui il ne va pas avoir peur de se cogner les évêques de la France entière dans les années 70 quand il faudra essayer de convaincre l'épiscopat français que les Scouts d'Europe ont leur place dans l'Église de France, qui a été un combat traumatisant pour les jeunes gens de l'époque. Et donc, Péric Géraud, il est d'un bloc, il sait ce qu'il veut, et il est entier comme bonhomme. Et c'est ça le cœur de sa personnalité. Alors, il a aussi une fibre littéraire évidente, qui est un peu exaltée, qui fait que peut-être qu'il aurait voulu être un grand journaliste ou un homme de plume. Son outil de combat, c'est la plume. Il est chef scout, ce qui, a priori, n'est pas tout à fait la même chose. Hein. On n'est pas des littéraires, les chefs scouts, là. Donc il va être à la fois chef scout, donc très concret, très enraciné dans le réel, au contact du jeune et au contact des situations particulières, et dans le même temps, vivre un rêve éveillé, un rêve de défense, quelque part, de ce qu'on va appeler l'Occident chrétien, de défense de la catholicité. Et effectivement, il y a un lien de famille avec Jean Housset, donc de la cité catholique, qui va devenir l'office, et qui s'appelle aujourd'hui Ictus, qui existe toujours, donc a été fondée juste après la guerre, 1946. Le lien de famille, c'est par sa femme, parce que Lucienne Géraud, donc, qui s'appelle Lucienne Sournac de naissance, c'est la cousine de la femme de Jean Housset. Et donc, on a un lien familial, proche. On a une histoire parallèle, parce que c'est deux couples, donc Jean Housset et Madame Sournac, et Péric et Lucienne Géraud-Carogle, sont des couples de la même génération, ils sont mariés à un an d'écart, ils ont vécu les mêmes choses, et donc ils vont se retrouver en région parisienne après la guerre, et donc il y a des liens de famille très forts, et puis il y a surtout le fait que deux couples vont se donner à cœur perdu dans des œuvres de laïcs, indépendamment de l'Église de France, donc sans mandat, sans autorisation hiérarchique, se prenant en main comme des grands. Et donc ça va consolider chez eux leur certitude, d'abord, d'une part, deuxièmement, et deuxièmement, l'idée que le laïc se prend en main. Et ça, c'est la grande œuvre de Jean Housset, que d'avoir inventer une œuvre pour que le laïc se prenne en main et qu'il travaille à établir le règne du Christ donc sur Terre, ce que vont faire les scouts d'Europe aussi à leur manière dans leur projet scout d'Europe, une fois que Péric Giraud sera à la barre à partir de 65. Et donc en fait, on a deux œuvres parallèles, les scouts d'Europe et Ictus, qui s'appelait à l'époque l'Office, qui donc propose aux laïcs de se prendre en main et de ne pas attendre la bénédiction du clergé ou de l'évêque pour décider que telle œuvre est une bonne œuvre ou une bonne idée, ou ainsi de suite. Donc,
deux projets parallèles. Mais
deux projets parallèles, deux catholicités, catholiques romains, qui s'adressent à des laïcs, dont l'enjeu essentiel est l'éducation. Alors l'éducation, donc Ictus va beaucoup travailler sur les questions scolaires, sur les questions éducatives, l'Escoute d'Europe évidemment sur les questions éducatives. Et donc en fait, il y a un parallèle évident dans la manière de fonctionner, d'abord, des deux couples et des équipes qui constituent autour d'eux, dont leur projet qui se moque du sens du vent, et surtout à l'époque, alors il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, qui a le vent en poupe dans les années 60, c'est le marxisme. Donc le marxisme, on est bien avant mai 68, mais le marxisme, c'est l'horizon d'attente de tous ceux qui sont politiquement engagés, quoi. Donc être catholique romain en 65, c'est quelque part avoir comme ennemi principal et numéro un le marxisme. Et donc on va avoir quelque part le même enjeu, quoi. Et donc tant que les scouts Blémorf avec Périg et Lysic Giraud-Carod étaient sur leur projet, donc qui était un projet très spécifique, très spécialisé, s'adressant à un public choisi, ils ne rencontraient que de loin, enfin, voire pas du tout, le projet de Dictus et de ses cellules familiales qui se déclinaient maintenant dans les villes de province à partir d'un noyau parisien à la base. Donc en fait, pendant une dizaine d'années, ils ont fonctionné en parallèle. Mais il est arrivé un événement qui est donc la réforme pédagogique menée par les scouts de France à partir de 62-63, qui devient officielle en 64, qui est plus que proposée en 65 et qui est imposée radicalement en 66. Ce qui fait que si on était contre la réforme pédagogique que les scouts de France initient au milieu des années 60, on devient un vilain petit canard et on n'a plus sa place au sein des scouts de France. Alors ça a été le combat des futurs SUF, donc ils sont nés en 71, que Christophe Carichon vous a raconté. C'est que les SUF donc, sont nés comme résistance interne au changement initié par le central, le QG, le quartier général des scouts de France à partir de 64-65, donc une lutte interne, une résistance interne en restant dans la maison de partisans du maintien de l'identité scout traditionnelle, avec un départ des scouts de France 71 par déception, de ne pas avoir réussi à renverser la vapeur, de ne pas avoir réussi à obtenir une existence légitime au sein des scouts de France, alors que les scouts d'Europe, eux, ils sont complètement à part, ils sont déjà à part depuis longtemps, ils sont en dehors des scouts de France, ils n'ont pas de lien avec eux, ils n'ont plus de lien avec eux, parce que les scouts de Blémor ont quitté les scouts de France, parce que les scouts d'Europe, ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas concernés par les scouts de France, en fait, c'est des associations parallèles. Oui. Mais la question pédagogique qui globalement était un projet cherchant à tout axer sur le collectif et non plus l'individu. Donc, d'un coup, les scouts de France se mettent à penser que l'éducation, ça passe par le groupe, et non plus l'individu à individu, du chef envers son du chef de patrouille envers son scout. Donc on en arrive à un changement de nature de la méthode parce que les projets changent, parce que le mobile change. Et donc ces scouts de France qui initient une réforme vont perturber, vont inquiéter, vont mettre en inquiétude et en insécurité des familles qu'on va dire traditionnelles, qui tout d'un coup mettaient par habitude ou par tradition leurs enfants aux scouts de France et se rendent compte que la maison devient insécurisante. Et donc là, c'est panique à bord, en 65. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe chez les scouts de France? Ils sont dans l'air du temps, il y a un soupçon qui était malvenu, mais enfin qui était erroné, mais en tout cas il y avait un soupçon qu'une citadelle de plus était tombée au sein du marxisme, enfin dans le camp du marxisme, hein, c'était donc les scouts de France. Donc ils ont donné des bâtons pour se faire battre, hein. ils ont joué un peu à la provocation aussi quand même, faut le dire. Il faut rentrer dans le détail de cette réforme, mais ceux qui l'ont portée, ils ont un petit peu quand même cherché à... Ils ont insécurisé clairement, et ils l'ont voulu, ils l'ont provoqué un peu les familles traditionnelles, très clairement. Et donc, ils voulaient être plus modernes que les modernes, ils couraient après la modernité, on va dire. Aujourd'hui, ils courent après le progressisme, là. Donc, un progressisme sans fondement, en fait. Ils sont tombés complètement à côté de la plaque, de mon point de vue, là. Et donc, rendant insécurisante l'institution des scouts de France, qui avait 40 ans d'histoire, qui était extraordinaire comme projet, enfin, ce qu'avait fondé le Percevin, la manière dont les scouts de France s'étaient comportés de manière héroïque pendant la guerre, hein. La générosité invraisemblable de générations de chefs qui avaient vraiment participé en tant que laïcs à l'élaboration du projet chrétien et éducatif chrétien, tout d'un coup, cette association devient un lieu perturbant, quoi. Donc, qui perturbe les jeunes, qui perturbe les chefs et qui perturbe les familles. Et donc, au sein de la cité catholique, donc de Jean Housset, qui s'appelle l'Office à l'époque, là, qui avait changé de nom en 63, donc au sein de l'Office, et ses cellules qui sont dispersées sur l'ensemble des grandes villes françaises en province, on se questionne, on se pose des questions, et une des familles très engagées au sein de l'Office, donc il s'agit de Marie-Claire Gousseau, dont mari était permanent de l'Office, Marie-Claire Gousseau qui avait 14 enfants, qui habitait en banlieue parisienne, enfin du moins dans les Yvelines, décide de se saisir de ce que font les scouts de France et de la transformation qu'ils ont mis en route pour lutter contre, pour empêcher cette trahison, d'après ses mots. Et elle rencontre les scouts d'Europe. Donc elle rencontre Péric Géraud-Cayrode. Et elle en dit tout de suite de sa première rencontre, c'est un roc, c'est celui qu'il nous faut. Il a peur de rien, on peut s'appuyer sur lui et son association, les scouts d'Europe, qui était groupusculaire, quelques centaines en France, c'était en 65, ils sont à peu près 450. Il faut s'appuyer sur cette association parce que les scouts de France ont pourri par la tête, le poisson a pourri par la tête, c'était sa grande théorie. Donc les têtes des scouts de France étaient tombées dans le camp ennemi, donc il n'y avait plus rien à faire. Et donc il fallait quitter la vieille maison pour investir les scouts d'Europe tout jeunes, dont le leader était donné des gages de sécurité, notamment parce qu'il y avait un lien de famille avec Jean Housset par sa femme. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est pour vous dire qu'on a affaire à des familles nombreuses, beaucoup, classiques, on va dire, traditionnelles, de tempérament, d'éducation, un peu vieille France si on veut, et qui disent ça va pas du tout chez les scouts de France, et au sein de l'Office, une famille, donc Marie-Claire Gousseau, dit « j'ai trouvé une issue de secours, un plan B ». Et ces cadres-là décident d'investir les scouts d'Europe. Alors, c'est très vrai à Versailles, par exemple, qui a été une des premières unités scouts d'Europe à se créer par rapport à la réforme scout de France. Et donc, on a affaire à des familles qui sont très solides sur le plan familial, très structurées, et qui, comme ils sont nombreuses, vont pouvoir fournir beaucoup de chefs, et de jeunes chefs et cheftaines, parfois très jeunes, et qui vont globalement donner naissance à des nouvelles unités scouts d'Europe, mais qui ne sont plus sur le projet initial du milieu des années 62-63, où on cherchait à rencontrer à l'étranger des minorités nationales pour pouvoir rencontrer d'autres cultures en renforçant des cultures minoritaires, donc scoutisme basque, scoutisme catalan, scoutisme breton, scoutisme flamand, scoutisme gallois. Et là, c'est plus du tout le même projet qui va être mis en avant à partir de 65. Et à ce moment-là, Pierrick Giraud-Cayrode, il est le leader incontesté au sein des scouts d'Europe. C'est lui qui donne le ton. Et donc, on va avoir des familles qui vont demander de l'aide. Alors, à Versailles, à Paris, à Rennes, à Bordeaux, à Lille, à Strasbourg, donc dans toutes les grandes villes, en fait, à Toulouse, de familles, de chefs, de groupes de parents, d'associations de parents qui vont se tourner vers les scouts d'Europe, dont l'histoire est très récente et qui sont quasi inconnus, en disant « Au secours, on cherche un mouvement structuré pour nos enfants et vous avez l'air, d'après vos revues que Pierrick Giraud-Cayrode mettait un soin particulier à développer, d'après vos revues, d'après votre présence, alors c'est là où le lien est très fort, il est incontestable, de par votre présence d'un stand Scout d'Europe au congrès annuel de l'office de Dictus, donc qui se tenait à ce moment-là à Lausanne en Suisse, qui est un congrès annuel qui rassemblait 1500 personnes jusqu'à 2500 dans les années 70. Donc ce congrès annuel, il y avait plein de jeunes gens, de jeunes chefs, des chefs tels, hein, il y avait plein de familles, et il y avait un stand Scout d'Europe, donc il y avait clairement la proposition Scout d'Europe, en tout cas l'association Scout d'Europe tenue en main par Pierrick Giraud-Cayrode, de par sa présence d'un stand, donc à partir de 65 au congrès de Lausanne, dans le premier congrès c'était à Sion en 64, après c'est à Lausanne à partir de 65, là il y a visiblement une connexion, un lien entre l'office, donc Futurictus, et les Scouts d'Europe. Et ça a rassuré nombre de familles, et nombre de familles revenant du congrès, donc qui avait lieu chaque année à Pâques, reviennent avec de la littérature, reviennent avec des revues, reviennent avec un projet clairement défini, noir sur blanc, avec des entretiens après avoir rencontré les responsables, et vont dans leur ville de province, c'est le cas à Rennes par exemple à partir de 66, ou à Lille en 68, vont lancer une unité Scout d'Europe.
Donc on peut dire que ce sont plein de familles des Scouts de France qui ont en fait fourni les unités des Scouts d'Europe.
Alors qui ont fourni souvent la première encadrement, la première génération de chefs à partir de 65. Donc sur le deuxième projet, qui va être cette fois un projet de défense d'un scoutisme catholique historique, on va dire, dans la filiation du Père Sevin. Un scoutisme pleinement catholique. Un scoutisme qui continue à croire que l'éducation se fait d'individu à individu et non pas, c'est pas le groupe qui éduque, mais c'est le chef qui éduque le jeune, quelles que soient les strates. Et donc ce sont ces familles-là, donc de la rue des Redoutes, qui vont être les premiers noyaux initiaux. Donc des fois, je prends l'exemple de Rennes, que je connais très bien, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, dans la ville de Rennes, une dizaine de familles seulement vont réussir à structurer la proposition Scout d'Europe à partir de 66-67, parce que c'est des familles qui se connaissent, c'est des familles cohérentes, qui ont un nombre d'enfants incroyable, c'est des familles à 10 enfants de base, et qui vont, parce qu'elles se connaissent et parce qu'elles sentent bien que ça ne va pas du tout chez les Scouts de France, et que le clergé a pris option pour les Scouts de France, parce que oui, ce qu'il faut voir là, c'est que le clergé a fait confiance aux Scouts de France à partir de 66. À partir de 66, les évêques de France, la commission épiscopale enfant jeunesse, l'évêque responsable du scoutisme en France, dit « Nous faisons confiance aux Scouts de France, le scoutisme catholique en France, c'est chez les Scouts de France ». Et donc les Scouts d'Europe arrivent sans prévenir, sans être invités. Les nouveaux venus sont toujours les malvenus. Donc sans être invités et sans prévenir, ils sont évidemment... Non seulement ils ne sont même pas accueillis, mais ils sont même rejetés, enfin officiellement. Il y a des condamnations, des circulaires épiscopales qui condamnent les Scouts d'Europe, c'est de la dissidence, c'est une voie sans issue. Enfin, là, il y a un tir de barrage fantastique qui a été national, parce qu'en 66, il y a une prise de position nationale de l'épiscopat français, alors, qui n'existe pas en tant que tel, mais des responsables de la commission enfant-jeunesse qui vont décider que ce sont les Scouts de France qui sont la seule offre de scoutisme catholique légitime en France. Et donc à partir de 66, les Scouts d'Europe, qui sont en train de se structurer par des noyaux familiaux dont je viens de parler, qui sont souvent membres de la cité catholique, ou en tout cas qui ont entendu parler de la proposition Scouts d'Europe par ce que j'appelle la rue des Redoutes, c'était l'adresse de l'office Dictus, qui est toujours l'adresse Dictus aujourd'hui, dans le 17e arrondissement, la 49 rue des Redoutes. C'est ces familles-là qui vont prendre le leadership, si on veut, sur la mise sur orbite des Scouts d'Europe sur le plan national.
Et ensuite, les Scouts d'Europe vont pouvoir connaître un essor incroyable jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut, vous avez déjà parlé de la FSE, la Fédération des Scouts d'Europe. Est-ce qu'on peut différencier FSE, AGSE, c'est un terme qui arrivera un petit peu plus tard, et UIGSE?
Alors, donc, les Scouts d'Europe, donc, quand ils se sont repris en main par Éric Giraud-Cayrode entre 63 et 65, donc, s'appelle à ce moment-là la FSE, c'est-à-dire la Fédération du Scoutisme Européen. C'était l'appellation d'origine qui s'était mise en place. Mais il y avait, donc c'était deux associations distinctes, il y avait une association scout, une association guide. L'AGSE, c'est l'association des guides et scouts d'Europe, c'est-à-dire une association qui chapeaute les deux branches. Une association commune pour chapeauter deux branches, donc féminin, masculin, donc différencié, distingué, donc il n'y a pas d'activité commune. C'est quand la question de l'Europe va revenir au premier plan, au milieu des années 70, que l'association va prendre un nouveau nom de UIGSE, c'est-à-dire l'Union internationale des guides des scouts d'Europe. Donc en fait, il y a une AGSE en France et une Union internationale des guides des scouts d'Europe en France, qui est en fait l'association qui chapeaute toutes les associations nationales de scoutisme européen, qu'on trouve en Allemagne, qu'on trouve en Belgique, en France, en Italie surtout, c'est la grosse association après la France. Parce qu'en fait, pendant la grande bagarre, ce que j'appelle la grande bagarre, c'est la période 65-75, quand les scouts d'Europe émergent localement, par des petits noyaux durs de famille qui ont décidé de se battre contre vents et marées. Donc quand il y a eu cette phase 65-75 de tentative d'exister, en fait, Le combat était tellement difficile contre le clergé local, contre les évêques, contre les institutions locales qui soutenaient mordicus les scouts de France. Donc le combat était tellement difficile que la dimension européenne qui existait initialement, qui était même à l'origine du mouvement des scouts d'Europe, a disparu complètement parce que les responsables français, en France en tout cas, n'avaient strictement plus l'énergie, le temps de travailler à consolider la dimension européenne, donc de rencontres entre différentes associations étrangères. Malgré des rencontres internationales, il y a eu un camp fédéral en 64 en Allemagne, à Marbourg, qui a été très, très fort et très puissant, qui avait à peu près réuni 400 jeunes gens. Il y a eu un camp étoile fédéral aussi avec des unités allemandes en 68, mais après, ça tombe à l'eau, on va dire, parce que, d'abord, les associations étrangères commencent à se déliter, notamment en Belgique, notamment en Allemagne, notamment l'association allemande a quasi disparu en 69. Et en France, le combat premier, urgent, est d'abord d'exister et donc d'exister et de réussir d'obtenir de l'épiscopat français ou des évêques de France la légitimité d'exister. C'est un combat qui a pris une énergie fantastique que l'Europe n'existe plus. En fait, l'association européenne n'existe plus. Et donc, elle va renaître. Elle va renaître en 75 parce que en Italie, il va y avoir le même processus de transformation du scoutisme catholique avec la grande association italienne qui va faire à peu près la même chose que les scouts de France français, mais un peu en décalé de quelques années en Italie. Donc les années 75 en Italie, c'est les années de plomb, hein, avec un marxisme ultra puissant, avec un des responsables italiens, là, Attilio Grieco, me racontait qu'on a eu une meute dans l'association catholique italienne, on a eu une meute Che Guevara, qui s'était lancée à Rome en 75, donc ça allait très loin quand même. Et donc, des jeunes gens catholiques ou des familles catholiques en insécurité en Italie, pour les mêmes raisons qu'en France en 65, tout d'un coup, on cherchait autre chose. Et il y a eu une rencontre extraordinaire et providentielle pour les scouts d'Europe de jeunes gens en Italie qui ont dit « Ah, mais ce que vous faites en France, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Non, on n'en peut plus. Voilà. » Et donc, l'association italienne est née en 75, enfin 75-76, à Rome, avec des jeunes chefs, là, les chefs tels, qui n'en pouvaient plus de rester dans l'association catholique italienne. Et donc, ça, de nouveau, apparaissait, se remettait en route une association étrangère. Et donc, à ce moment-là, il fallait recréer l'ancienne Fédération des Scouts d'Europe. Et donc, elle a pris, en 77, le nom de Union internationale des guides des Scouts d'Europe. Et après, des associations qui se sont créées un peu partout. Alors, ça n'a jamais pris en Irlande ou en Angleterre. En Espagne, ça a toujours été très difficile. En Italie, c'est le gros noyau dur. Alors, en Belgique, c'est reparti. Et après, il y a eu l'ouverture à l'Est, mais qui viendra beaucoup plus tard, et notamment quand la Pologne va devenir... Va intégrer les scouts d'Europe, mais après la chute du mur, bien après la chute du mur.
Pour terminer sur cette partie de l'histoire des scouts d'Europe. Est-ce qu'on pourrait évoquer l'histoire du Bossan, qui est l'étendard des scouts d'Europe?
Alors le Bossan, c'est l'œuvre majeure, enfin c'est l'œuvre extraordinaire de Péric Giraud-Caraud, qui avait... Les scouts d'Europe avaient, à la fin des années 50, un étendard bleu, qui correspondait donc à l'étendard européen de 55, avec les 12 étoiles que l'on connaît. Et donc les scouts d'Europe avaient un étendard bleu avec la croix à 8 pointes, qu'on appelle la croix des 8 béatitudes, rouge sur le fond bleu foncé. Et donc sur les photos noir et blanc de l'époque, parce que les revues sont en noir et blanc, le drapeau, l'étendard est invisible. Il ressemble à un étendard noir. Donc ça ne va pas. Et donc Péric Giraud-Caraud a cherché pour ces questions esthétiques, si on veut, ce qui est, comme je l'ai dit, très sensible à la qualité de ces revues qu'il proposait, qui ne paraissaient que 4 ou 5 fois par an, mais qui, avec les pauvres moyens qu'ils avaient, était une revue de très très bonne qualité. Et donc il a cherché un étendard qui soit plus visuel, plus visible et plus fort. Et il a inventé en 66, donc le Bossan, parce que Péric était quelque part un exalté et qu'il était enraciné dans l'histoire. Il puise toujours dans l'histoire ses projets. Et le Bossan, c'est un étendard qui vient des croisades. Donc très clairement, un étendard de défense d'une identité chrétienne, occidentale, qu'on va dire occident chrétien. En tout cas, il écrit ces mots-là, l'occident chrétien. Il faut défendre l'occident chrétien en 69 dans les revues. Et donc le Bossan a été proposé au premier camp fédéral, si on veut, qui a permis la réunion... en 66, donc au Mont-Saint-Michel, des trois rameaux qui ont fondé finalement les scouts d'Europe que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire le rameau originel germanique, la branche bretonne identitaire qui est arrivée dans un mouvement européen, pensant donc développer sa proposition pour minorité ethnique, et les nouveaux venus, donc les derniers venus de l'époque, donc ceux qui avaient abandonné les scouts de France et qui cherchaient chez les scouts d'Europe un scoutisme catholique solide. Et donc ces trois rameaux-là vont se rencontrer, vont faire l'amalgame, ce qui n'était pas gagné d'avance, vont faire l'amalgame en 66 pendant un camp étoile qui va se terminer au Mont-Saint-Michel avec une traversée de la baie derrière ce fameux Bossan. Donc c'est les fameuses photos que l'on trouve sur Internet où on voit 10 Bossans en train de traverser la baie. Ce sont les... En fait, ça correspondait aux 10 premières unités qui étaient solides et qui étaient capables de camper en 66, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, les scouts d'Europe, c'est à peu près 30 000 membres. Ils ont connu une croissance fulgurante entre 60... Alors, en 70, ils sont déjà à peu près 5 000. En 75, ils sont presque 8 000. Et ils arrivent à 25 000 dans les années 80. Donc, il y a une progression qui a été... fantastique, pendant que les scouts de France se cassaient la figure. Le creux des scouts de France, c'est 78. Donc en fait, le Bossan a été un étendard de ralliement extraordinaire qui a un impact très important pour les unités. C'est vraiment l'étendard de l'unité. Alors même si, depuis quelques années, ils rajoutent un étendard d'unité en plus, en fait, n'empêche que le Bossan, c'est l'étendard fédératif, si on veut. Et donc, s'il est sorti pour la première fois au Mont-Saint-Michel en 66, la deuxième fois qu'ils ont pu se rallier sous la bannière des Bossans, c'est quand le pape est venu au Parc des Princes en 80, donc en région parisienne, hein, au Parc des Princes, en 80. Les scouts d'Europe qui sortaient de la période où ils étaient refusés par l'Église de France, mal accueillis, on avait décidé de faire nombre, d'être présents. Donc l'objectif, c'était d'être 10 000 présents sur place au Parc des Princes pour l'avenue de Jean-Paul II en France. Et le mot d'ordre, c'était « faut être 10 000 ». C'était presque ce chiffre-là. Et comme l'organisation avait parqué les scouts d'Europe plus loin, c'est-à-dire au niveau de l'aire de regroupement d'écart, c'est-à-dire des centaines de mètres du podium... Les Bossans se sont faufilés en file indienne jusqu'au plus près du dispositif. Et là, sur les photos, on a des photos extraordinaires où on voit des forêts de Bossans qui sont là en train de montrer qu'ils existent. Donc c'était un pied de nez fantastique. Ça, c'est un peu les scouts d'Europe. Ils aiment bien, n'ont pas peur. Donc il y avait un pied de nez fantastique à toute l'organisation qui était au moins des scouts de France ou au moins de l'Église de France et qui refusait de laisser de la place à ces nouveaux venus qui aujourd'hui, on le sait, fournissent beaucoup de séminaristes dans nos séminaires.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Lionel Christian. On continuera cette histoire des scouts d'Europe dans un prochain épisode avec Marc de Coligny. Mais je vous remercie déjà pour toute cette première partie. Et puis je donne donc rendez-vous à nos auditeurs pour le prochain épisode.